l'accompagnement spirituel des personnes malades, le sacrement de pénitence, le sacrement de l'Eucharistie et le sacrement de l'onction des malades. Voici une intervention du Père Philippe Baïtia, supérieur du séminaire de Bayonne. Intervention enregistrée à la maison diocésaine de Bayonne le 1er décembre 2015, lors d'une journée proposée par le service diocésain de la pastorale de la santé. L'accompagnement spirituel des malades, voici cette intervention du Père Philippe Baïtia.
Bonjour à tous et à toutes. Vous m'avez demandé de parler de ces sacrements. Bon, je le fais avec une petite expérience. Bon, celle, bien sûr, de prêtre qui visite de temps en temps des malades, qui est accompagné aussi dans la mort, hein, de ce côté-là. Et aussi, eh bien, voilà, ayant été opéré de manière assez sévère, celle du malade, voilà, avec les hôpitaux, les maisons de récupération, etc. Et donc, d'avoir fait moi-même, très modestement, l'expérience de ces sacrements pour les avoir demandés un tout petit peu en contrebande, c'est-à-dire sans donner grande publicité. Alors, l'une des réalités les plus sombres, les plus difficiles de notre vie d'homme, c'est la souffrance. La souffrance physique qui apporte la dégradation du corps, voire même dans certains cas le travail de force de mort en nous, et dans des cas, ce travail de force de mort qui mène vers une issue fatale. Également, ça peut générer de l'incertitude par rapport à l'avenir, quant à la maladie qui nous frappe, quant à ce qu'on va devenir. Enfin, ben, on se demande quelle disposition prendre. Quelle disposition prendre. Quel changement aussi. Cela va impliquer. Et la souffrance peut se doubler de problèmes moraux et spirituels. Et bien sûr, la crainte, l'angoisse, la peur. On peut se demander ce que l'on a fait de sa vie, ce que l'on a construit et aussi ce que l'on a dégradé. Il y a aussi des conflits mal réglés. Vous savez que parfois, la mort ou les obsèques rassemblent tardivement ceux qui étaient en conflit et qu'on se lamente de ne pas s'être réconcilié. Il y a la part d'ombre, de péché, de mal, d'injustice dont nous sommes responsables et qui peuvent hanter notre conscience, provoquer des regrets. Et pour des gens qui sont des chrétiens, ils réalisent qu'ils n'ont pas suffisamment vécu selon l'Évangile. Et donc la tentation peut être d'en rester là, de désespérer, de ne plus croire assez en la miséricorde de Dieu, de redouter la mort et ce qui suivra. Tous les chrétiens ont à partager l'attention et l'amour du Christ et de l'Église pour les malades. Si on regarde les Évangiles, il y a beaucoup d'épisodes où Jésus est proche des malades, où il les écoute, où il les guérit. Donc les chrétiens sont invités à prendre soin, chacun selon ses possibilités, bien sûr, de ceux que la maladie a frappés, à leur rendre visite, à les réconforter dans la foi, à leur apporter une aide fraternelle pour ceux dont ils ont besoin. Mais celui qui est malade est avant tout une personne. C'est une personne affectée sans doute par la maladie, mais elle est appelée, elle aussi, à maintenir et développer une vie de relation et d'échange avec d'autres. Elle est appelée à assumer sa vie et à faire face aux difficultés avec courage. Elle est appelée, comme chrétien, à faire de sa vie, là où elle en est, bien entendu, une réponse au Christ. Donc, un des services à rendre, c'est de cheminer avec chacun là où il en est, avec son histoire, ses réussites, ses échecs, ses préoccupations, ses doutes, ses découvertes aussi. Et cela avec tact, respect, discrétion. C'est ainsi qu'il faut dire une parole de foi, éclairer, soutenir la foi. Notre service que nous pouvons rendre, c'est l'encouragement. Les malades ont souvent besoin d'être encouragés par d'autres. Ils peuvent ainsi mieux vivre leur situation. Et s'ils ont la foi, ils arrivent progressivement dans la foi à vivre leur situation en union avec le Christ, qui donne sens et valeur à toute vie chrétienne. Cette démarche suppose souvent du temps. Une vie que vient bouleverser la maladie ne conduit pas directement, si je peux dire, de soi vers le Christ. Il peut y avoir des révoltes, des incompréhensions, des oppositions. Donc il s'agit de chercher pour chaque malade le chemin qui va le conduire à la rencontre avec le Christ, ce chemin qui va lui donner d'être uni à l'amour du Christ jusque dans la souffrance. Dans le fond, nous imitons ce que Jésus a fait avec les disciples d'Emmaüs. Il les a pris là où ils en étaient, avec leurs souffrances, avec leurs idées fausses, leurs illusions, et il les a conduits vers lui. Donc il s'agit pour nous d'avoir cette spiritualité d'Emmaüs. Un autre service, c'est la prière. Certains malades rencontrent des difficultés pour prier. Ça peut être dû à la faiblesse physique ou psychique, causée par la maladie, parfois par les traitements, aux difficultés dans la foi aussi, à de fausses images de Dieu, à de fausses images de l'Église, peut-être à des expériences négatives avec l'Église. Donc il s'agit de faciliter aux malades cette démarche de la prière. Dans la prière, le malade pourra puiser la force d'âme nécessaire pour affronter les difficultés de son état, pour rencontrer le Christ aussi. Donc il est bon que les malades soient amenés à prier seuls ou en groupe, avec leur entourage si possible. Cette proposition doit être faite aussi avec tact et respect. Respect de là où ils en sont. Et dans cet itinéraire, les sacrements sont des moments importants. Il faut bien sûr tenir compte de l'état du malade, physique et spirituel, pour les donner. Et il s'agit de les préparer d'une manière ou d'une autre, selon le rythme des malades, de leur état physique, psychologique, et aussi du stade spirituel où ils en sont. Alors le sacrement de pénitence et de réconciliation, je ne vais pas tout en dire. Deux aspects de ce sacrement me paraissent importants. Le sacrement de réconciliation peut être le lieu où une personne peut parler librement de tout l'ensemble de sa vie ou d'un des aspects de sa vie pour en chercher le sens et peut-être le sens dans la foi. Ce qui serait l'idéal, je dis bien ce qui serait l'idéal, c'est que le prêtre puisse aider celui qu'il confesse à s'exprimer non seulement sur sa vie personnelle, mais aussi sur sa vie dans les différents groupes auxquels il appartient, famille, relations, travail, engagements divers. Parler librement de l'ensemble de sa vie, en retrouver la trame, en découvrir le sens. Et bien sûr, le confesseur peut suggérer des liens entre des réactions qui peuvent apparaître sans rapport les unes avec les autres, ou bien faire se souvenir des grands moments d'une vie qui est toujours une histoire sainte. Dans ce sacrement, on est accueilli par quelqu'un qui est témoin de l'amour de Dieu. Il est très important pour quiconque de parler un jour avec quelqu'un de ce qui le concerne au plus intime de lui-même, de risquer cette confiance à un autre, à une condition, c'est que celui qui ose cette confiance puisse se sentir accueilli par l'amour du Seigneur, dont un autre est auprès de lui le signe. Moi non plus, je ne te condamne pas. Bon, il s'agit pour le malade de se reconnaître et de s'accepter devant Dieu, en vérité, ce qui peut permettre ensuite de transformer des relations, d'être aussi plus libre envers soi-même. J'ai souvenir, pour ma part, parce que je confesse pas mal, j'ai souvenir de pénitents qui venaient de très loin, un peu brut de décoffrage, dirons-nous. Ce n'est pas un jugement. Un peu brut de décoffrage, et qui, d'une manière très, très modeste, commençait un cheminement, commençait à prendre des résolutions pour se mettre en marche. Il peut arriver que dans la vie des malades, il y ait des choses lourdes, des attitudes ou des actes qu'ils ont posés qui ne sont pas particulièrement brillants, brillantes. Le sacrement de réconciliation peut être d'une grande aide à ce moment-là. Il peut faire saisir au malade que Dieu ne le voit pas uniquement comme un individu qui a posé tel ou tel acte, pas très brillant, mais comme un fils ou une fille bien-aimée qu'il aime, si je puis dire, au-delà de son péché et dont il désire le progrès, l'avancement, la réalisation, toute chose que l'Église englobe quand elle parle de salut. Alors bien sûr, dans le sacrement de pénitence, le sacrement de réconciliation, lorsque nous le demandons, nous trouvons le pardon du Seigneur. Mais nous trouvons aussi sa grâce, c'est-à-dire sa lumière, sa force, son amour pour faire mieux. Parce que quel est le but du sacrement de réconciliation ? Bien, le but du sacrement de réconciliation, c'est notre conversion, c'est la conversion. C'est le changement de mentalité et de manière d'agir pour que l'Évangile colore toujours davantage notre vie, marque toujours davantage notre vie. Dans cette perspective, on peut aussi donner quelques éléments sur le pardon qui peuvent aider dans l'accompagnement des malades sur cette question. Car parfois, il s'agit pour des malades de pardonner à ceux qui leur ont fait du mal. Pourquoi pardonner ? Mais d'abord parce que le Seigneur nous le demande. Nous le demande dans l'Évangile. Ensuite, parce que Dieu nous pardonne. Nous recevons son pardon et nous sommes appelés à l'imiter, à pardonner aussi de notre côté à ceux qui nous ont offensés. Nous le disons chaque fois que nous disons la prière du Seigneur qu'est le Notre Père. Et pardonner, c'est imiter Dieu. Saint Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, nous dit ceci: « Dieu vous a pardonné dans le Christ, devenez donc des imitateurs de Dieu. » Aussi, parce que le refus de pardonner nous éloigne de la communion avec Dieu. Dans l'évangile de Matthieu, « Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, votre Père du ciel si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père du ciel vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père du ciel ne pardonnera pas non plus vos fautes. » Quand nous sommes offensés, nous devons comprendre que le non-pardon est un obstacle à nos prières, à notre union, avec Dieu, alors que le pardon va nous introduire dans une intimité nouvelle avec le Seigneur, rendre nos prières plus efficaces et libérer l'action de Dieu dans notre situation. Alors certains diront, mais je ne peux pas pardonner. La crasse qu'on m'a faite, elle est tellement grave, ou elle m'a tellement blessé que je ne peux pas pardonner. La question, c'est pas tant de pouvoir, c'est de vouloir. C'est de vouloir. Avec, bien sûr, l'aide du Seigneur. Tant que nous résistons à la décision de pardonner, nous résistons à Dieu. Et le pardon nous livre au tourment. Vous vous souvenez de cette parabole de l'Évangile, du serviteur auquel son maître pardonne, bon, il remet des dettes, une dette importante, puis tombe sur un autre serviteur et il ne lui remet pas. Que fait le maître? Il le jette en prison. Il le livre au tourment. Alors, ça peut être symbolique. Quels sont les bourreaux qui tourmentent ceux qui ne pardonnent pas? Bien, c'est l'amertume, c'est la haine, c'est la rancune, c'est le désir de vengeance, c'est la pitié de soi, mais pas fier de soi. C'est l'esprit de jugement. On est livré aux tourments de ces bourreaux, prisonniers de ces pensées, de ces sentiments qu'on ne veut pas abandonner. Et tout cela, ça va nous tourmenter, nous détruire. Alors au début, on a dressé des murs devant la personne qui nous a blessés pour assurer une certaine protection, mais petit à petit, nous nous sommes construits notre propre prison et nos propres tourments. Également, le refus de pardonner infeste ceux qui nous entourent. Si l'amertume et la colère contrôlent notre vie, nous allons développer un style de vie et de relation marqué par cette colère. De façon souvent inconsciente, la personne qui n'a pas pardonné, qui n'a pas coupé avec son passé, va reproduire cela dans son couple, avec ses enfants, et va infester toute la famille. Et c'est le constat souvent tardif de cette réalité qui amène les personnes à chercher de l'aide. Enfin, le pardon est nécessaire à la réconciliation. On ne va jamais loin dans la relation sans l'exercice du pardon. Autrement dit, on ne pourra jamais construire de relations profondes et durables si on ne sait pas pardonner. Et donc, dans le pardon, Dieu vise la réconciliation. Si on ne pardonne pas, on ne pourra pas se réconcilier. Mais voilà, si la personne blessée est amenée trop vite à penser réconciliation sans un travail préalable, si on la pousse, si je puis dire, à pardonner trop vite, eh bien, elle risque de donner un pardon à bon marché qui ne va pas créer les conditions nécessaires à une vraie réconciliation. Donc une démarche de pardon commence par une démarche personnelle devant Dieu, avant d'être une démarche envers celui qui a offensé. Si nous voulons aider quelqu'un à cheminer dans une démarche de pardon, nous devons respecter son état émotionnel, son ressenti, ses émotions, ses difficultés, et ne pas pousser cette personne à aller trop vite vers la réconciliation. Pourquoi? Parce qu'il y a des étapes, il y a un processus, Il y a une espèce de maturation, de maturité à travers lesquelles l'Esprit Saint agit. Dieu nous pardonne gratuitement, bien que nous soyons pécheurs. Il faut que nous aussi, nous puissions faire de même. Celui qui m'a offensé n'a pas mérité mon pardon. Le repentir de celui qui m'a offensé n'est pas un prix qu'il doit payer pour que je lui pardonne. Le pardon est quelque chose d'offert. Et donc, il s'agit de rendre ce pardon disponible pour celui qui m'a offensé. Et donc, ce pardon accordé rétablit la relation. Et le premier pas du pardon, je crois, c'est de vouloir avoir des relations normales avec ceux qui nous ont offensés. Avoir des relations normales. Les progrès dans la relation suivront, mais il faudra du temps. Le pardon se conjugue bien souvent avec le temps. Et je crois que c'est des choses qu'il nous faut avoir en tête. Si d'aventure, voilà, nous sommes avec des malades bon, qui ont à pardonner. Il nous faut les avoir en tête pour ne pas violenter, pour permettre à cette démarche du pardon de se faire petit à petit, de mûrir, de se faire dans la sérénité. L'Eucharistie. Alors, il est bon que les malades assistent et ou reçoivent l'Eucharistie. Porter la communion aux malades est un geste de foi et une démarche fraternelle aussi ancienne que l'Église elle-même. Dès les premiers siècles de l'Église, on a eu ce souci de porter l'Eucharistie aux malades et à ceux qui étaient en prison. Parfois, c'était des chrétiens persécutés, des frères qu'on avait jetés en prison. Mais on a toujours eu, depuis le début, ce souci de porter la communion donc aux malades. Ben oui, quand j'apporte la communion aux malades, j'apporte aussi le réconfort de la parole de Dieu. On va lire un petit bout de la parole de Dieu, qui est une parole de vie. J'apporte le corps du Seigneur. Et la communion du malade, c'est une communion au Christ qui s'offre à son Père. Et cette communion, elle est une invitation à accueillir le Christ, à s'unir à lui dans sa lutte contre le mal, à partager, enfin, c'est pas moi qui partage, c'est Jésus qui partage, son amour pour le Père, à partager la prière du Christ, à partager la mission du Christ. Il peut y avoir un aspect missionnaire de la maladie. Quand voilà, on offre les joies et les peines de la maladie, bien voilà, pour que le royaume de Dieu s'implante de plus en plus, pour qu'il y ait de plus en plus de paix et de justice, pour que des hommes et des femmes, jeunes ou moins jeunes, se tournent vers le Christ. Il y a un aspect missionnaire qui est dans le fond la mission du Christ. Bon, même si cette mission ça se fait à partir d'un lit de malade ou d'hôpital ou d'un fauteuil roulant, que sais-je. Et que demande l'Église dans les prières qu'on dit lorsque on porte la communion aux malades? Qu'est-ce qu'elle demande pour eux? Parfois, sûrement des prières dont vous vous servez dans des petits fascicules que vous avez porté la communion malade. Il faut y faire attention. Il ne s'agit pas de dire ces choses-là. Voilà. C'est ce qu'il faut les dire. Parce que ce que l'Église demande, Elle sait dans la foi que le Seigneur l'accorde par son Eucharistie. Mais voilà ce qu'elle dit. Voilà ce qu'on dit. Seigneur Jésus, tu es notre force et notre soutien, et tu viens dans ton immense amour visiter toi-même notre frère, notre sœur, malade, âgé, infirme, qui a désiré te recevoir. Fortifie-le par ta parole et par ton Eucharistie. Réjouis-le de ta présence, qu'il accueille en toi l'auteur de toute guérison, le protecteur et le sauveur de notre vie, toi qui vis et règnes avec le Père et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on demande ? Fortifie-le par ta parole et par ton Eucharistie. Réjouis-le de ta présence et qu'il accueille en toi l'auteur de toute guérison, la guérison du cœur, l'aide qui est apportée aussi pour la guérison du corps et de l'esprit. Ou bien une autre raison, toujours tirée du rituel dont vous vous servez. Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous te supplions de prendre soin de notre frère, de notre sœur. Pour le bien de son corps et de son âme, donne-lui de trouver un remède éternel dans cette communion au corps et au sang de Jésus-Christ. Bon, de trouver un remède éternel, c'est un peu la même idée que tout à l'heure. Dans l'Eucharistie, le Seigneur accorde donc de ressentir davantage les effets du salut. Il augmente notre foi pour que nous ressentions sa présence au milieu de nous. Il nous fait partager sa vie et nous donne d'être toujours en communion avec lui, unis à lui, unis profondément à lui. Et l'Esprit Saint fait persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d'en haut, ceux qui ont reçu la force de Dieu. Il nous donne la vie éternelle. Bien sûr, cette communion, la communion ne peut pas être apportée n'importe comment. Il faut y faire attention. Porter le corps du Christ avec respect, si possible. Voilà, préparer un peu, avec un beau linge, poser le corps du Christ, manifester notre adoration envers le corps du Christ, qui est aussi un témoignage. Hein? Bon. Mais bon, là, bien sûr, j'imagine qu'il faut voir selon les circonstances concrètes. Hein? Mais il faut avoir toujours cela en tête. Et puis, il y a cette communion particulière qu'est le viatique. Le viatique, c'est la dernière communion d'un malade avant sa mort prévue. Le mot viaticum, en latin, c'était le casse-croûte. Ça désignait les provisions pour la route. Voilà. Vous partiez en voyage, on vous donnait un viaticum. Bon, vous savez, le petit garçon de la multiplication des pains, qui avait 5 pains et 2 poissons, c'était un viaticum. Voilà. Alors on le dit aussi, parfois. Je lui ai donné un viatique. C'est souvent un peu d'argent qu'on a donné à des gens ou à des jeunes qui en ont besoin. Je lui ai donné un petit viatique. Vous voyez, c'est la même idée. Bon, donc voilà. On va faire le grand voyage de cette terre au monde de Dieu, et l'Église nous donne les provisions de route. Mais quelle autre provision de route que le corps du Christ et aussi la prière de l'Église. La prière de l'Église, les sacrements de l'Église. Bon. Mais la grande provision de route, c'est bien sûr le Christ. Et donc, ce viatique reçu au moment du passage vers le Père, donne aux mourants la force de faire le grand passage. Ce viatique, l'Eucharistie, va unir déjà au Christ. Et le Christ qui vient en ce moment-là apporter son aide pour faire assumer la mort. C'est pas rien. assumer la mort. Et avant d'unir celui qui fait le grand passage, de l'unir pleinement à lui par la vie éternelle. Et cette communion est semence de vie éternelle. C'est ce que dit Jésus dans l'évangile de Saint Jean. « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. » Vous voyez le lien entre le fait de communier au corps et au sang du Seigneur et la résurrection au dernier jour. Et cette communion, elle annonce la joie du ciel. Je suis, voilà, le mourant est uni par cette communion au Christ Jésus, mais bon, dans un petit moment, il sera uni au Christ dans une lumière qu'il n'a pas connue sur cette terre. Ici, il a cheminé dans la foi, vous savez, la lumière de la foi, c'est l'étoile des mages. L'étoile ne connaît ni la nuit sans aucune lumière, ni la nuit la plus obscure, ni le soleil à son zénith. L'étoile, c'est suffisamment de lumière pour que vous puissiez marcher. La foi, c'est ça. Suffisamment de lumière pour que je puisse marcher avant d'aboutir dans la patrie du ciel, un ciel où là, je suis dans la pleine lumière. Donc, cette communion annonce la joie du ciel. Le sacrement des malades. Bon, alors parfois, il y a comme un problème avec le sacrement des malades, parce que durant des siècles, ça a été quand même le sacrement des mourants, parfois des morts, si j'ose dire. Alors, ça marquait les mentalités. Alors, parfois, dans certains cas, quand vous évoquez le sacrement des malades, je n'ose pas vous dire qu'on lève les bras au ciel. Mais c'est un peu ça. On se dit, mais vous savez, Père, il n'est pas encore mort. Bon. Mais bon, les sacrements, c'est quand même pour la vie ici-bas. Bon. Donc, ce n'est pas une extrême onction, ce n'est pas un sacrement pour les mourants, mais c'est un sacrement pour les malades. Alors, ce sacrement, c'est une grande grâce. Pour l'avoir expérimenté moi-même, je vous dis que c'est une grande grâce. C'est d'abord une grande aide lorsqu'on est gravement malade. Ou bien, lorsqu'on va subir une intervention chirurgicale importante. Ou bien, aussi, autre possibilité, lorsque, à cause du grand âge, les forces déclinent dangereusement. Vous savez que avec le grand âge, on baisse de palier à palier. Et hélas, on ne récupère pas. Bon, donc quand il s'agit de... Quand on est en lien avec des personnes âgées, bon, voilà. On voit qu'il y a des paliers qui ont été franchis, mais ça sera comme ça, quoi. Bon, donc l'Église le prévoit aussi pour ces cas-là. Alors, donc... sacrement, il a été pratiqué par les apôtres. Dans l'évangile de Saint Marc, on voit que Jésus fait des onctions d'huile. Dans la lettre de Jacques, voilà, on dit que si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, les prêtres de l'Église, qu'il lui fasse une onction, qu'il prie pour le malade, etc. Donc ce sacrement est donné par les prêtres, par personne d'autre. Il y a eu des abus. Par les prêtres. Donc, dans l'onction des malades, les malades vont recevoir de l'Esprit Saint un renouveau de confiance en Dieu et des forces nouvelles contre les tentations qui peuvent venir dans la maladie. Et l'Église tout entière recommande les malades au Seigneur, Jésus qui a été crucifié, Jésus qui est ressuscité, pour qu'il les sauve et les relève. Et donc, dans le trouble où peut le mettre une maladie sérieuse ou un vieillissement brutal, pour ainsi dire, le chrétien a particulièrement besoin de cette grâce pour être en paix, pour garder son courage pour lutter contre le mal, pour continuer à vivre sa foi et pour ne pas se recroqueviller sur lui-même. Vous savez que ça peut être une tentation des malades. Ben voilà, ils sont tellement pris par leurs problèmes qu'ils sont recroquevillés sur eux-mêmes. Il n'y a plus d'autres perspectives. Bon, ben, ce sacrement vient apporter une aide pour ne pas entrer dans cette attitude. Mais il apporte la grâce pour vivre l'épreuve dans l'esprit le plus évangélique possible, pour apporter sa part au bien de l'Église. On parlait tout à l'heure de l'aspect missionnaire que peut être la maladie. Tout peut être missionnaire dans la vie d'un chrétien, tout. Et parfois, il arrive que, grâce à ce sacrement, on retrouve la santé, si le Seigneur le permet. Il est arrivé de voir aussi, en donnant ce sacrement, une espèce d'amélioration physique pour un temps. Et si c'est nécessaire, le sacrement apporte le pardon des péchés. Donc, dans cet ordre d'idées, bien souvent, dans ces situations risquées, de maladies graves, d'opérations, de dégradation par la vieillesse, nous relisons notre vie. Et la part d'ombre et de péché qu'il y a dans notre vie ne nous échappe pas. Nous réalisons que nous n'avons pas suffisamment vécu selon l'Évangile. Et la tentation peut s'immiscer d'en rester là, de désespérer, de ne plus croire assez en la miséricorde de Dieu. On se dit, ben oui, toi Seigneur, tu m'as dit, soyez parfait comme mon Père Céleste est parfait. Je suis très très loin du compte. Et sur tel, tel, tel et tel point, je sais que je n'ai pas vécu selon l'Évangile. Je sais. Eh bien, l'expérience montre que l'onction des malades apporte une libération intérieure. L'assurance de la présence du Christ et de l'Esprit-Saint dans ce moment difficile. Une présence qui redonne confiance, qui fait fondre comme neige au soleil les préoccupations spirituelles et morales qui nous hantaient. Et donc, ce sacrement donne d'aborder avec sérénité, dans une grande confiance, les soins, l'opération. Une religieuse d'un certain âge, ou d'un âge certain, je ne sais plus trop comment il faut dire, qui avait passé sa vie au service des malades, elle fait partie d'une congrégation, vous savez, de sœurs, dont la vocation est le service des malades. Elle me disait un jour que, bon, elle devait subir une opération importante. Et elle me disait un jour qu'elle appréhendait cette intervention chirurgicale parce qu'elle craignait la mort. Et elle me disait qu'elle avait demandé l'onction des malades et qu'à partir du moment où elle a reçu l'onction, bien, cette crainte a totalement disparu. Un peu avec naïveté pour ma part, ayant fait un peu l'expérience de la grâce de l'onction des malades. J'avais écrit au supérieur du séminaire des Carmes, j'étais quand même immobilisé pour un mois. J'avais donné un peu de mes nouvelles et j'avais un peu raconté. Alors j'ai reçu une lettre un peu humoristique. Où il y avait ceci, eh bien, comme tu le sais, quelque chose de ce goût. Comme tu le sais, c'est ce que ce sacrement de l'onction produit chez les fidèles qui le reçoivent. Alors, pourquoi pas chez toi? Les prières de la liturgie envisagent diverses situations. Dans la liturgie de l'onction des malades, vous avez par exemple une prière pour demander l'espérance. Veille, Seigneur, sur ce malade et sur tous ceux qui avec lui sont éprouvés. Que ton amour soit sur eux et qu'ils placent en toi leur espérance. Qu'ils placent en toi leur espérance. Bien, vous avez une prière pour un malade, un opéré. Seigneur Jésus, toi qui nous as rachetés, tu viens de visiter, un tel, notre frère malade ou qui va subir une intervention, et nous te prions encore. Par la grâce du Saint-Esprit, guéris-le de tout mal, pardonne ses péchés, écarte de lui tout ce qui le fait souffrir, redonne-lui la santé, afin qu'il puisse reprendre au milieu de nous les tâches qui l'attendent. Redonne-lui la santé, dans ce cas, afin qu'il puisse reprendre au milieu de nous les tâches qui l'attendent. Ou bien, autre perspective, pour demander le réconfort. Seigneur Jésus-Christ, toi qui as voulu connaître notre condition d'homme pour relever les malades et sauver les pécheurs, regarde ce malade qui attend de toi la santé de l'âme et du corps. Nous venons de lui faire en ton nom l'onction sainte. Que ta puissance lui redonne vigueur, que ton soutien le réconforte, qu'il soit victorieux de son mal. Donne-lui de conserver l'amour dans son épreuve, comme tu l'as fait toi-même dans ta passion. Que ta puissance lui redonne vigueur, que ton soutien le réconforte, qu'il soit victorieux de son mal. Autre prière pour demander le retour à la santé. Père Tout-Puissant, éternelle guérison de ceux qui croient en toi, nous te prions pour un tel, éprouvé par la maladie, qu'il retrouve la santé, qu'il reprenne sa vie normale et qu'il puisse, avec un cœur renouvelé, te rendre grâce dans l'assemblée de tes fidèles. Qu'il retrouve la santé, qu'il reprenne sa vie normale et qu'il puisse te rendre grâce avec un cœur renouvelé. Ce sacrement a aussi des effets spirituels, bien sûr. Pour une personne âgée, Seigneur notre Dieu, ton ami affaibli par l'âge et ses infirmités a demandé pour son âme et pour son corps le secours de ta grâce. Dans le sacrement des malades, tu lui as donné la force de l'Esprit Saint. Continue de le soutenir, qu'il demeure ferme dans la foi, inébranlable dans l'espérance, qu'il donne à ses proches le témoignage d'un courage paisible et manifeste dans sa joie le rayonnement de ta charité. Qu'il demeure ferme dans la foi, inébranlable dans l'espérance, qu'il donne à ses proches le témoignage d'un courage paisible et manifeste dans sa joie le rayonnement de ta charité. L'essentiel de la vie chrétienne, vivre la foi, l'espérance, la charité et témoigner auprès des siens. Ou pour quelqu'un qui est en grand péril, Seigneur Jésus-Christ, sauveur de tous les hommes, toi qui dans ta passion as pris sur toi nos souffrances, nous te prions pour notre frère éprouvé par la maladie, puisque tu l'as racheté et que tu viens de lui renouveler ta grâce dans l'onction sainte, accorde-lui le soulagement de ses souffrances, le réconfort au moment de l'épreuve et affermis en lui l'espérance d'être sauvé. Soulagement des souffrances, réconfort dans l'épreuve et espérance d'être sauvé. Alors, oui, ce sacrement réalise de diverses manières le souhait exprimé dans la liturgie au moment où il est conféré. Le prêtre, en faisant l'onction sur le front et sur les mains, si mes souvenirs sont bons, dit la formule sacramentelle. La formule sacramentelle, c'est par cette onction sainte que le Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Voilà la formule sacramentelle. Alors, dans le cas d'une maladie dont l'issue paraît fatale, le chrétien reçoit par cette onction la grâce pour vaincre l'angoisse de la mort et vivre l'espérance de la vie éternelle et de la résurrection en s'associant à l'attitude aimante et confiante de Jésus dans sa passion et dans sa mort. Sur la croix, Jésus s'est remis avec confiance à son Père. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et bien sûr, avec tout son amour de Fils de Dieu, mais aussi son amour envers les hommes. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc voilà. Alors, tout comme Jésus a offert sa vie pour le salut de tous les hommes, bien, les souffrances unies à la sienne dans la foi peuvent obtenir une mystérieuse fécondité et contribuer à ce que son règne se répande parmi les hommes afin qu'ils aient la vie en abondance. Vous savez, la petite phrase clé de l'offertoire pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Tout doit être orienté dans une vie, et les souffrances aussi, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Et donc, là aussi, il y a cette perspective un peu missionnaire. Bon, voilà un peu ce que j'avais à dire.
L'accompagnement spirituel des personnes malades, vous venez de suivre une intervention du père Philippe Beitia, supérieur du séminaire de Bayonne. Cette intervention a été enregistrée le 1er décembre 2015 à la maison diocésaine de Bayonne lors d'une journée proposée par le service diocésain de la pastorale de la santé.